cœur à cœur avec Sophie Stanquier.
Mesdames, messieurs, il me fait plaisir de débuter cette émission avec un invité tout à fait spécial de cœur à cœur. On va passer une heure en sa compagnie, une espèce d'hommage à cet homme qui a fait beaucoup pour nous, pour les hommes et pour les femmes, Guy Corneau, psychanalyste et auteur. Bonjour Guy Corneau.
Bonjour, bonjour.
Ça va bien, ça se passe bien?
Très bien, ça se passe bien, oui, merci.
Alors écoutez, on a envie de savoir... Guy Corneau, comment il a été durant son enfance? Est-ce que c'est un petit gars de Montréal? Il est à Chicoutimi, mais est-ce qu'il a toujours été à Chicoutimi? Est-ce que ça a été une enfance dorée, chouchoutée dans l'amour des parents? Comment ça a été votre enfance?
Je viens de Chicoutimi, en fait, tout à fait. J'ai vécu là jusqu'à l'âge de 19 ans, jusqu'à temps que je vienne à l'université à Montréal. Et j'ai eu une enfance... Les deux en même temps, je pense qu'on avait, j'avais des bons parents et très dévoués, et qui avaient une bonne foi dans la vie. Mm-hmm. Et c'était très important. Mais il y avait des aspects de cette enfance-là que moi j'ai trouvé extrêmement difficiles, en fait.
Dans quel sens?
J'étais déjà un petit garçon très sensible et puis ça n'allait pas toujours bien avec ma maman. Alors je me...
Donc plus un rapport difficile avec la mère qu'avec le père.
Oui, mais mon père, ça lui a valu père manquant, fils manqué. Je le trouvais pas assez présent dans ce débat-là que j'avais avec ma maman, qui a commencé assez tôt. Et oui, c'est ça, je trouvais ça. Mais par contre, je sais pas, c'est Chicoutimi, là où on vivait, on était en face d'un cultivateur, on était tout proche de la nature. Alors ça, c'était extraordinaire de vivre des aventures, littéralement, dans les champs, par monts et par vaux, avec mes amis. À bicyclette, c'était incroyable, à travers les insectes, toutes sortes de choses.
Mais au niveau de la nature, c'était très riche.
Très, très riche, très, très riche. Et ça, j'ai beaucoup apprécié ça. Et je suis quelqu'un qui, très, très tôt, j'aimais beaucoup m'amuser à monter des petites scénettes et tout ça. Je faisais payer mes amis 5 sous, je me rappelle de ça. Ou même, mais tout était bon pour faire un spectacle. J'avais aussi une sorte de rétroprojecteur. Puis je passais une sorte de Tintin. Donc, je leur présentais Tintin, je faisais payer. Ça, c'était une bouteille vide.
Alors déjà le côté un petit peu artiste, si on revient avec l'enfance, donc finalement un petit peu de conflit avec la maman, le père, vous l'avez écrit dans vos livres.
Oui.
Ça a été le déclencheur un petit peu de l'écriture. Mais et comment ça se passe, Guy Corneau, à l'école? Est-ce qu'il est intimidé parce que c'est quand même quelqu'un qui est artistique? Ça se passe
non,
bien?
Non, ça se passe bien parce que ma mère était en fait institutrice. Elle avait arrêté son métier pour élever ses enfants. Et c'est peut-être ça qui a créé les difficultés. Elle avait une bonne rigueur, mais je me rappelle qu'elle nous faisait l'école à 11 ans. Pas 11 ans, 11 heures le matin. Et quand je suis rentré à l'école à 5 ans, 5 ans et demi, j'étais mal commode parce qu'au fond, j'avais déjà tout appris ce qu'il y avait à apprendre là. Alors, j'étais déchaîné, ça n'avait aucun bon sens. C'est pas drôle. Ma première maîtresse m'avait mis en avant de la classe... à côté de son pupitre pour avoir vraiment... J'étais en garde à vue tout le temps que j'étais à l'école. À la maison, j'étais plus sage, mais c'était ça. Guy Corneau, c'était un enfant curieux, je pense, assez intelligent. J'ai jamais eu de problème de notes scolaires, mais éveillé peut-être un peu trop tôt par sa maman.
qui voulait finalement... Pourquoi elle faisait l'école à la maison? Elle voulait...
Je pense qu'elle s'ennuyait de faire l'école, en fait. Elle aimait ça, faire l'école. Alors, c'était une passion pour elle d'enseigner. Et je pense que je tiens tout ça de ma maman, de mon goût à moi aussi d'enseigner, d'être sur scène, d'enseigner. Et c'était pour son plaisir, je pense, d'enseigner quelque chose. Et en même temps, je pense qu'elle voulait des enfants performants et intelligents à l'école. Et donc, mais s'il y a des parents à l'écoute, c'est pas un service à rendre à un enfant qui sache pratiquement lire et écrire en entrant à l'école parce que... Ça devient extrêmement ennuyant. Puis un enfant qui s'ennuie, c'est extrêmement perturbant.
Donc finalement, c'est mieux de rentrer sans connaissance.
Oui, parce que de toute façon, à l'école, c'est lent. Hein? C'est lent le processus. Moi, je plaignais de ça à ma mère. Je disais, mais ça n'a aucun sens. Moi, il répète 2-3 fois les mêmes affaires, les mêmes affaires. Et la maman...
Elle a arrêté finalement de vous faire de l'école à la maison?
Mais non, surtout qu'on commençait l'école, elle arrêtait. Non, oui, ça se passait quand elle avait 3-4
quand
ans.
Vous rentriez le soir, est-ce qu'il continuait à vouloir...
Non. Ça avait simplement vérifié nos devoirs. Mais j'avais appris déjà, je ne sais pas, à 5-6 ans, tu es un enfant très assidu. J'ai aimé l'école, en fait. J'ai toujours aimé l'école. J'ai toujours aimé apprendre. Et jamais dit, ça ne m'a jamais posé aucun problème. Mm. Même quand je faisais beaucoup de choses à côté, comme du théâtre au cégep ou tout, ou même au secondaire déjà. Mais non, c'était facile pour moi, j'aimais ça. J'aimais avoir des professeurs passionnants, ça c'est ça que j'aimais le plus. Franchement, il y a des gens qui, en 45 heures de cours, ont changé ma vie. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une passion pour ce qu'ils enseignaient.
Quelle matière?
Ben, je me rappelle, par exemple, on avait un professeur en histoire qui était super intéressant au niveau du Moyen Âge. On avait un autre aussi qu'on avait eu dans les antiquités grecques et latines, gréco-latines, M. Villeneuve, qui s'appelait. C'était un grand monsieur, très particulier. Et vraiment, c'était des gens qui éveillaient des passions très, très, très tôt. J'en avais eu un autre en histoire de l'art. Vraiment, ça m'a passionné. Franchement, c'était des gens qui avaient le don de nous raconter quelque chose et de nous faire aimer ce qu'ils racontaient. Et ça, j'ai aimé ça beaucoup. Ça, c'est déjà au pensionnat, au séminaire.
Alors, vous n'avez pas fait l'école buissonnière, si je comprends bien.
Vous
aimiez l'école.
J'aimais l'école. Ça ne m'a jamais intéressé de manquer l'école. Il y a une année où je manquais beaucoup d'école, c'était en cinquième année. Il y avait une institutrice que je n'aimais pas du tout. Mais je l'avais énervée au point qu'elle avait fini par me gifler en classe. Je pouvais être assez grave.
Qu'est-ce que vous faisiez pour la pousser à bout? Est-ce que c'était plutôt elle, la responsable, ou vous?
Non, c'était moi, parce que je répliquais. Je me mettais à faire des répliques, un petit peu en sourdine à tout ce que le professeur disait. Puis ça m'a valu une fois une gifle de sa part. Mais déjà, au séminaire aussi, je m'étais fait exclure. Je m'étais fait renvoyer à la maison. Renvoyé du pensionnat parce que je répliquais trop.
Alors, est-ce que Guy Corneau aurait pu être un bum?
Oui, mais un bum de bonne famille, comme disait Charlebois. Un bum de bonne famille. J'avais un petit côté rebelle. J'étais pas à l'aise avec l'autorité. Jamais aimé ça. Jamais eu de patron, d'ailleurs, parce que je me suis rendu compte très, très vite que ça ne marchait pas, cette affaire-là. J'étais quelqu'un qui avait trop besoin d'autonomie, en fait. Et, je veux dire, il faut qu'on fasse appel à mon intelligence, sinon ça va mal.
Vous aimez le contrôle de votre agenda.
Oui, c'est sûr. Mais c'était plus l'idée que s'il nous privait de quelque chose ou qu'il nous l'explique franchement. Moi, j'aimais ça qu'on compte plutôt sur mon intelligence que de me faire dire « Écoute, tais-toi ». J'ai toujours été comme ça.
Alors, il y a quand même, chez vous, l'homme artiste. On dirait que ça a toujours été dans votre vie. Bon, auteur, mais il y a l'homme de théâtre qui veut exploser, qui veut faire prendre les planches. Puis finalement, vous décidez avant de devenir auteur, vous partez étudier en Suisse. Mais qu'est-ce qui a fait, en fin de compte, que je rencontre un psychanalyste auteur aujourd'hui et non un comédien?
Il y a plusieurs éléments. Je dirais que à l'époque, il faut se replacer dans le Québec des fins des années 60, au fond. C'est tout un éclatement culturel fantastique. C'est les Beatles, les Rolling Stones. Moi, je dirige déjà une troupe de théâtre au cégep. Et bien sûr, tous mes amis, comme Pauline Martin, Richard Blackburn, qui est maintenant à Upton, tous mes amis s'en viennent à Anouk Simard, s'en viennent à Montréal pour étudier dans des écoles de théâtre, Michel Côté, Marcel Gauthier, tout ça. Tout le monde s'en va dans l'École nationale, le conservatoire ou l'option théâtre à Sainte-Thérèse. Et moi, j'ai aussi préparé mes auditions, comme tout le monde.
Ah bon?
Ça prenait la signature des parents pour aller passer ces auditions. Et mes parents avaient refusé de signer la fameuse...
Ah, pourquoi?
Parce que je pense que pour mon père, en particulier... C'est drôle parce que mes deux parents avaient des tempéraments artistiques. Mon père était commerçant, mais au fond, il était très, très habile à sculpter. C'était un très bon artiste, mon père. Et ma mère avait toujours une passion par rapport aux poètes, aux chanteurs, aux musiciens. C'était l'époque de Vigneault, l'Éveillé, tous ces gens-là.
Alors, des parents artistes, mais oui. Disons qu'ils ne gagnaient pas leur vie avec leur art.
Oui, c'est ça. Et ils se méfiaient de ça, en fait. Pour mon père aussi, c'était absolument impossible. Je pense que son fils aîné fasse un métier artistique.
C'est pour ça qu'il n'a pas signé.
Oui, parce que pour lui, d'abord, c'était choisir l'insécurité. Et d'autre part, c'était que j'étais quand même devant un homme qui avait sacrifié sa vie. Mon père n'a jamais eu d'intérêt très particulier pour le commerce, mais pour qu'on reçoive une éducation, une instruction, et qu'on puisse aller à l'université pour, au fond, se sortir du destin qui avait été le sien. Mm-hmm. Je pense que c'était en particulier le rôle de son aîné
de faire ça. De faire ça. Donc, est-ce que vous lui en avez voulu?
J'en ai voulu beaucoup, oui. Oui, mais autour de Père Manquant, Fils Manquant, on a pu reparler de toutes ces choses-là en détail. Et, c'est sûr que pour mon père, c'était très, très longtemps difficile à accepter que j'ai ce reproche-là en moi. Et je me rappelle, ça a pris... Parce que lui, son fantasme, c'était non seulement que je sois un intellectuel, mais que je sois un professeur d'université. Parce que c'était son fantasme à lui, au fond, qui n'avait pas été assez à l'école et qui était convaincu qu'il était un idiot. Mon père était un homme intelligent qui a beaucoup lu par lui-même et c'était un bon philosophe, au fond.
Donc, il voulait finalement... il se voyait en vous.
Il se voyait en moi, tout à fait. Il se projetait en moi. Puis, c'était des générations qui voulaient, qui rêvaient pour nous, puis qui souhaitaient qu'on ait un destin différent du leur. Et il savait que l'accès à un nouveau destin, c'était l'instruction. Moi, j'honore ça. Aujourd'hui, je n'ai aucun contentieux avec mon papa, et qui a fini par trouver aussi que j'avais une vie qui avait du bon sens.
Alors, on va revenir, on va parler de votre père. Vous savez que Cœur à cœur, c'est la première aujourd'hui. On demande à nos invités de nous présenter des chansons, des artistes qu'il aime bien. Alors, vous avez, entre autres, choisi Richard Séguin. Pourquoi Richard Séguin?
Ah ben, Richard Séguin, c'est un poète, d'abord, et... C'est un homme que j'estime, parce que c'est un homme qui est resté fidèle à son appel poétique, je dirais.
Alors, chanson pour durer toujours, voici Richard Séguin.
Quand dans ta lyre, je pousserai mes songes. Quand dans mes vers tu choisiras tes sons, quand même nos rêves n'auront plus tant d'attrait, quand même la vie aura perdu son poids, alors j'espère que notre joie sera durée toujours. Alors j'espère que notre joie sera durée toujours. Quand ton âme s'éloignera de mon corps, quand nos pensées voudront faire chambre à part, quand ton regard n'enfantera plus le mien, quand notre amour se mettra à sombrer, alors j'espère que notre peine ne durera pas toujours. Oh non, j'espère que notre peine ne durera pas toujours. Quand d'autres yeux feront briller mes yeux, quand d'autres mains feront jaillir tes reins, quand nos désirs se verront crucifiés, quand nos paroles iront jusqu'à tuer, alors j'espère que notre haine ne durera pas toujours. Alors j'espère que notre haine ne durera pas toujours. Quand ton profil complétera le mien, quand notre bouche n'aura plus qu'un seul joint, quand tes genoux parleront de mon front, quand dans ma main se lira ton destin, alors peut-être que notre amour pourra durer toujours. Alors peut-être l'amour aura duré toujours.
Alors, Richard Séguin, on est en compagnie de Guy Corneau. Nous en étions finalement avec le fait que vous aviez hésité finalement entre acteur et votre père avait refusé de signer la lettre pour passer l'audition. Ça a été quelque chose dans votre vie. Donc, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez laissé tomber après?
Non. Je suis allé étudier à Loyola à l'époque, qui est devenu Concordia, en communication. Communication Arts à l'époque. Et donc, j'étais étudiant en cinéma-télévision, qui était un bon entre-deux, au fond.
Et ça passait pour vos parents?
Oui, ça passait, parce que pour mon père, c'était important que j'aille à l'université, au fond. Et même à Loyola, j'ai monté du théâtre en anglais. Mm-hmm. J'ai monté un spectacle Edward Albee, puis j'ai monté un autre spectacle. Donc, je dirigeais, moi qui ne parlais pas si bien anglais, je dirigeais des acteurs en anglais. Et c'était intéressant. C'était une école extraordinaire à l'époque. C'était fantastique, en fait. J'ai adoré cette école-là.
L'écriture arrive dans votre vie. Vous partez ensuite en Suisse faire vos études. Ça a été une bonne expérience, la Suisse, pour vous, de voir d'autres façons de penser que les nôtres au Québec. Comment vous avez vécu un Québécois qui va en Suisse?
Entre la fin de mes études, mon premier baccalauréat à l'université et mon départ pour la Suisse, il y a eu quand même du théâtre là-dedans.
J'étais dans un groupe qui s'appelait
Organisation O, que j'ai dirigé aussi, qui avait été fondée par Germain Beauchamp, un de mes amis. On a fait du théâtre pour enfants, mais tout à coup, à l'intérieur de ça, j'ai créé un groupe de théâtre pour adultes. Et c'est à l'intérieur de ce théâtre-là que des gens comme Daniel Proulx, Joanne Fontaine se sont joints à notre groupe de travail, Claire D, Anne-Dan Durin et tout ça. Donc, c'était un groupe extrêmement intéressant, extrêmement vivant. Mais quand même, j'étais tourmenté par toutes sortes de choses. Et je suis retourné à l'université, j'ai fait une maîtrise, j'ai commencé mon doctorat à l'Université de Montréal. Et après, je suis allé étudier à l'Institut Jung de Zurich. Et je dois dire que...
Tourmenté par quoi à cette période-là?
C'était l'époque où le théâtre était très... avait pris une tangente de théâtre très, très didactique. Et nous, on était un groupe de création. On faisait nos propres choses, on écrivait notre matériel et tout. À cette époque-là, à Montréal, début des années 70, il y avait 14 groupes comme nous, les Enfants du Paradis, la Quenouille Bleue, dont faisait partie Michel Rivard, La Veillée. Et on se fréquentait tout ce monde-là ensemble. On allait voir les spectacles les uns des autres et tout. C'était des groupes de théâtre autonomes qui réunissaient à la fois des professionnels, des semi-professionnels, des gens comme moi qui n'avaient pas fait l'école de théâtre, mais qui étaient très impliqués dans ce milieu-là, ce geste-là. C'était l'époque du théâtre à Québec. Moi, je tenais vraiment à faire un travail d'un théâtre de création. Et c'était se condamner la pauvreté, pour dire la vérité. Ça a pris beaucoup de temps avant qu'on puisse avoir des subventions pour avoir un local de répétition, un camion pour faire les tournées, tout ça. Et dans ce cadre-là, je voyais mes amis qui, tout à coup, se mettaient à aller travailler dans d'autres compagnies plus classiques ou qui se mettaient à faire de la publicité à la télévision pour gagner de l'argent, pour vivre, au fond. Et moi, j'étais pas bien avec tout ça, puis je me disais, je serais pas capable de faire ça. Et donc, je me suis dit, je vais finalement retourner à l'université et je vais choisir un métier qui était devenir un psychanalyste de formation jungienne, qui va me permettre de gagner assez bien ma vie pour pouvoir garder mon théâtre intact, en fait. Maintenant, ce que j'ai mal calculé, c'est que bien sûr, j'allais me passionner pour la psychanalyse, la psychologie analytique, autant que je l'étais pour le théâtre. Ben, je l'étais déjà, parce qu'il faut vous dire qu'on faisait un théâtre déjà assez symbolique. Je me rappelle, sous l'impulsion de Germain, justement, Beauchamp, on vivait dans des sortes de communes à l'époque, et le matin, à la table du déjeuner, tout le monde racontait ses rêves, et Germain jouait un peu à l'analyste au bout de la table. On était vraiment dans un ferment analytique, en fait. Et je me rappelle même que toute la troupe... On allait finalement chez le même thérapeute.
Ah bon?
Il s'appelait Gustave Moff.
Mais vous l'avez su comment? Il y a quelqu'un qui s'est échappé, qui a dit?
Non, c'est que Germain l'avait trouvé. Et puis c'était un monsieur qui avait étudié avec Jung, qui était un psychiatre à la retraite, en fait, qui avait étudié avec Jung et qui était passionné par la psychanalyse jungienne. Alors, Germain a commencé par y aller. Puis moi, j'ai suivi. Finalement, il y en a d'autres de la troupe qui ont suivi. Au point que... il a fini par nous donner des cours dans son salon le mercredi soir. Et ça a donné naissance au Cercle Jung de Montréal, parce que j'ai créé un Cercle Jung avec ces amis-là. Alors, pour moi, l'aventure du théâtre et l'aventure de la psychologie, c'était très, très mélangé. Et le théâtre qu'on faisait avait toujours, comme dans le théâtre grec, une sorte de... Un élément où c'est la réalité qui se passe, mais un élément de commentaire sur la réalité, comme dans le chœur grec, par exemple. Et souvent, moi-même, j'ai joué dans ce chœur grec-là, en fait.
Interventionniste, théâtre un peu avec un message.
Oui, absolument. Puis qui avait des tableaux et avec des commentaires entre les tableaux. Et D'ailleurs, ça ressemble à la pièce qu'on va jouer la semaine prochaine à Québec, là, sur le couple. Et donc, ça me passionnait, ces genres de choses-là. Donc, j'ai composé de la musique pour le théâtre, j'ai joué au théâtre, j'ai fait de la mise en scène pour le théâtre. Et c'est resté une grande aventure, mais que je voulais justement garder pure par rapport à...
Et vous vouliez pas faire des publicités, ce que vous disiez tout à l'heure, j'avais pas envie de faire comme ça.
J'avais pas envie de ça. Uh-huh. En même temps, c'était se condamner à des vies qui sont vraiment avec très, très peu de confort. Ouais. J'ai encore des amis acteurs qui vivent pas très bien. C'est pas difficile. Vie. C'est ça. Alors, je voulais pas non plus vivre ça. Alors, j'ai choisi la psychanalyse, qui était le théâtre intérieur, le théâtre psychique, au fond. Mais c'était très intéressant. Notre théâtre est déjà imbibé de psychologie analytique, de rêves, de choses comme ça.
Vous choisissez aussi d'écrire votre premier livre. En fin de compte, ça a été un succès, le premier que vous avez écrit. Quand vous y mettez, c'est ce qu'on ne veut pas qui arrive en général quand il y a des auteurs, c'est que le premier soit un succès. Et vous en vendez 155 000, père manquant, fils manqué. Qu'est-ce que ça vous fait, là? Tout d'un coup, votre premier livre, votre métier que vous poursuivez avec autant de passion que le théâtre, fait en sorte que Guy Corneau sort des cartons, tout le
Absolument,
monde le connaît.
Absolument, oui, c'est ça, oui.
Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
Ça avait commencé par les conférences que j'avais annoncées sur ce sujet-là. C'était en 86, la première conférence. En avril 86, je me rappelle, c'était à l'Université du Québec. Ça s'appelait déjà « Père manquant, fils manqué ». Et ça avait déjà eu tellement de succès que j'avais dû répéter la conférence. J'avais eu deux salles pleines de 300 personnes environ à l'époque. Et, déjà, les éditions de l'Homme étaient venues m'entendre, puis voulaient que j'écrive là-dessus. J'ai dit « Oh non, je ne suis pas prêt ». Puis l'année d'après, ils sont revenus. Je continuais ma trajectoire. J'avais fait un autre sujet qui était sur la peur de l'intimité, l'agressivité chez les hommes. Et donc, j'ai commencé à faire des groupes pour hommes seulement, autour de ces thèmes-là, autour du père. Et c'est vrai que déjà ça avait beaucoup de... Ça engageait beaucoup de ferveur. Oui. Et le livre, effectivement, a connu un succès phénoménal. C'est un livre qui s'est rendu à 300 000 copies environ, qui s'est traduit dans une quinzaine de langues. Ça m'a amené à voyager beaucoup. Mais ça m'a aussi, peu à peu, arraché mon métier de psychanalyste, en fait, en cabinet. Parce que... Tout à coup, tu as beaucoup de succès. Tout à coup, tu étais à Télé-Québec. C'était Téléservice à l'époque.
Vous étiez un peu partout à ce moment-là. Une fois que le livre est sorti, on vous voyait sur toutes les tribunes.
Oui, c'est ça. C'était vraiment comme une déflagration. Et à un moment donné, après 2-3 ans de ça, à manger dans des taxis, à ne plus avoir de vie, au fond, et à aller en Europe aussitôt que... Parce que le livre avait un beau succès en Europe aussi. Aller en Europe aussitôt que j'avais 5-6 semaines de vacances... Et ça devient des vies très, très fatigantes, mm-hmm. très exigeantes. Mm-hmm. Et finalement, j'ai abandonné mon cabinet parce que j'avais besoin d'espace pour parler, pour voyager. Et aussi pour être libre de ma parole, parce que c'était délicat avec Père manquant, fils manqué. C'était que, en tant que psychanalyste, tu veux que les gens que tu reçois en thérapie, que tu sois un bel écran de projection pour eux. Mais ça, pour ça, plus ils connaissent de choses sur ta vraie vie, moins ils peuvent projeter largement et moins on a de matière pour travailler. Donc, c'est sûr que dans mes conférences, je voulais avoir plus le champ libre pour parler de mon père, pour parler de toutes sortes de choses. Et donc, tranquillement, j'ai arrêté mon cabinet.
Vous arrêtez votre cabinet pendant ce temps-là pour vous occuper des conférences et surtout la sortie du livre, mais on va revenir en 1989. C'est la première fois qu'au Québec, il y a un homme qui sort comme ça. On a l'impression que pendant des années, les femmes ont parlé. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites sur les femmes, écrites sur les femmes. Et vous avez été le précurseur. Vous avez été le premier à parler de ces hommes-là qu'on ne voit pas, qui se rencontrent dans des bureaux, des petits groupes qui n'ont pas de nom et qui ont des mots. Et vous avez mis des mots sur ce... Et en 89, et là... Grâce à votre livre, il y a des gens qui ont voulu fonder des associations. Il y a eu des petits qui se sont faits.
Oui, j'ai créé...
Vous avez eu votre association.
Avec l'aide de Robert Blondin, d'ailleurs, de Radio-Canada, on avait profité d'une plage de Christiane Charette qui devait s'absenter. On avait eu 3 heures grande écoute, de coast to coast, on peut dire, d'un océan à l'autre. Et là, on avait profité pour lancer le réseau Homme Québec, en fait, mm-hmm. mettre en place une structure... de bénévoles, en fait, qui allaient s'occuper de mettre en place des groupes d'hommes. Alors, ce que j'avais fait, c'est que j'avais, avec des hommes qui avaient été dans mes groupes d'hommes pendant quelques années, J'ai dit, ben là, on va essayer de rendre ce service-là à d'autres hommes aussi. Et là, on a vraiment, tu sais, ça a mis en place une structure d'accueil, en fait, dans les 15 régions du Québec. C'est 3-4 bénévoles, au fond. Et on avait un petit fascicule qui était comment commencer un groupe d'hommes avec, en expliquant les hommes comment ça avec leur ligne de vie, des choses comme ça. Créer un paquet d'exercices, en fait, qui permettait d'entrer dans cette confidence-là, d'homme à homme, sans trop se sentir gêné. Et vraiment, ça a marché très, très bien. J'imagine, le Réseau Homme Québec a fêté ses 20 ans en juin dernier. Hein, c'était fondé en 93. En 92, ça a fêté ses 20 ans l'année dernière. Et il passait à peu près 8 000 hommes dans le Réseau Homme Québec à travers le temps. Et donc, ça veut dire 8 000 hommes qui ont travaillé dans des petites cellules de 7-8 personnes, environ 1 000 cellules de travail qui sont faites à travers les années. Et ça mélangeait les classes, les couleurs, les religions. Et moi, c'est ça que je voulais, en fait. Je voulais que les hommes apprennent à parler de ce qu'ils ressentaient.
Est-ce que vous avez ressenti ça, vous, bon, dès que vous écrivez en 89 votre livre, est-ce que vous ressentiez ça autour de vous, qu'il y avait vraiment un manquement, sans faire de jeu de mots, là, que l'homme, il ne prenait pas position, il était, on ne s'occupait pas de lui mentalement. Est-ce que vous avez senti ça qui a fait en sorte que vous avez fait votre action?
Bien, ce que je sentais, en fait, c'était que les hommes avaient... Les modèles du masculin étaient très distorsionnés, en fait, parce que les modèles du masculin que moi, j'avais eu dans mon enfance, pas de mon père, mais des modèles environnants, étaient qu'un homme, être un homme, c'est avoir le contrôle, au fond, sur l'argent, le sexe, les relations. Et moi, j'étais le pouvoir, en fait. Et moi, j'étais pas bien là-dedans. J'étais un homme sensible, justement, plus de tempérament artistique. Et il n'y avait pas de place, au fond, pour ces hommes-là. Tu te sentais un peu bizarre dans notre société de l'époque. Et je voulais absolument que la porte s'ouvre. Et donc, dans les groupes pour hommes, il y avait des gens homosexuels, il y avait des gens... C'est une place où les gars pouvaient parler de ce qu'ils étaient, peu importe comment ils étaient, peu importe d'où ils venaient, peu importe la sorte de père qu'ils avaient eu. Il y avait là un endroit pour être entendu, pour être accueilli, et donc pouvoir se reconnaître aussi en tant qu'homme, et donc assister à une sorte de naissance d'une identité qui était moins tordue, qui était moins esclave des stéréotypes et tout ça, questionner les stéréotypes et... J'ai vécu des choses fantastiques à travers le mouvement du Réseau Homme Québec, qui existe encore d'ailleurs, on peut toujours rhq.ca.
Vous avez libéré la parole des hommes. On va tout de suite à une prochaine pause musicale et elles sont choisies par mon invité. Alors cette fois-ci, c'est Vincent Vallière et On va s'aimer encore. Pourquoi ça? On va s'aimer encore.
Ah ben, je trouve ça beau parce que c'est tout... c'est à la fois tiré du quotidien. Mais c'est un message d'amour et d'espoir.
Que vous passez en boucle des fois, cette chanson-là?
Non, 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 je l'écoute de temps en temps. Quand ça passe à la radio, je suis toujours content de l'entendre.
Alors, on l'écoute.
Dans le miroir, nos faces ridées pleines d'histoires. Quand on en aura moins de vin qu'on en a maintenant. Quand on aura enfin du temps et qu'on vivra tranquillement. Quand la maison sera payée, qu'il restera plus rien qu'à s'aimer. On va s'aimer encore au travers des doutes, des travers de la route, et de plus en plus fort, on va s'aimer encore au travers des bons coups, au travers des déboires, à la vie, à la mort, on va s'aimer encore. Nos enfants vont partir, qu'on les aura vus grandir. Quand ce sera leur tour de choisir, leur tour de bâtir. Quand nos têtes seront blanches, qu'on aura de l'expérience. Quand plus personne va nous attendre, qu'il restera plus rien qu'à s'éprendre. On va s'aimer encore au travers des doutes, des travers de la route, et de plus en plus fort. s'aimer encore, au travers des bons coups, au travers des déboires, à la vie, à la mort, on va s'aimer encore. Démodé. Quand toutes les bombes auront sauté, que la paix sera là pour rester. Quand sans boussole, sans plan, on partira au gré du vent. Quand on lèvera les voiles devenues de la poussière d'étoiles. On va s'aimer encore, après nos bons coups, après nos déboires, et de plus en plus fort, on va s'aimer encore, au bout de nos doutes, au bout de la route, au-delà de la mort, on va s'aimer encore, au bout du doute, au bout de la route, au-delà de la mort, on va s'aimer.
Canal M, un service de Vues et Voix. Vous pouvez nous joindre au 514-282-1999 au numéro sans frais 1-800-361-0635, poste 220. Par courriel, inforadio@canalm.ca. Nous vous invitons également à consulter notre site canalm.ca.
Toujours en compagnie de Guy Corneau, cœur à cœur. Alors, on va s'aimer encore. La place de l'amour dans la vie de Guy Corneau?
Ben, c'est important, et de plus en plus important. Je dirais que je suis un homme qui, comme je pense beaucoup d'hommes, découvre peu à peu comment l'amour est important dans une vie. Et que peut-être une vie, à travers ses difficultés, conduit simplement à l'ouverture du cœur, une acceptation de plus en plus profonde, une offrande de soi-même à la vie, à l'amour. Alors... Non, je trouve ça très important.
Alors, c'est une quête pour vous, parce que visiblement, on juste à lire les titres de vos livres, il y a toujours le mot « amour » dedans.
Oui, oui, oui.
Si
oui.
S'il n'y en a pas un pour une année, l'année suivante, vous vous rattrapez.
L'amour en guerre, la guérison du cœur.
Il y a toujours le cœur ou l'amour. Vous êtes parfait pour mon émission.
Ah oui,
cœur à cœur,
mais,
vous êtes...
Non, mais c'est juste très important. Puis, c'est le cœur de la vie. Je pense qu'on est... Vraiment là pour... Je pense que la pulsion centrale d'un être humain, c'est une pulsion d'union, en fait. D'union peut-être à une personne, mais aussi à la vie elle-même, redevenir la vie elle-même et l'incarner profondément dans de la joie, de la création. Alors, bien sûr, c'est une quête qui va nécessiter de la maîtrise de soi-même, de la maîtrise des pensées, des actes, toutes sortes de choses difficiles et en même temps une offrande gratuite, parce qu'au fond, je veux dire, comment est-ce qu'on peut vivre une vie en évitant qu'il y ait des injustices, qu'il y ait des infamies dont on est témoin ou dont on est même la victime, et tu te dis, bon, si je me mets à vivre ma vie esclave de tout ça, il n'y aura jamais de joie dans ma vie, il n'y aura jamais d'amour, au fond. Alors, tu es obligé de te dégager, de dire non, aimer, être joyeux, créer, c'est un choix personnel, c'est un choix de qu'on refait chaque jour, et peut-être plusieurs fois par jour.
Alors, vous parlez souvent de gestes aussi, l'amour par rapport à une création, mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'en 2013, c'est difficile, qu'il y a tant de gens qui sont à la quête de l'amour, de rencontrer l'âme sœur, que ça dure? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a vraiment un manquement à ce niveau-là.
Oui, mais c'est parce qu'aussi toutes les structures sont en train de se défaire, toutes les structures sont questionnées. Alors, ça fait peser une grande attente sur le couple, en fait, sur la vie à deux. Mais cette vie à deux-là, est-ce qu'on est capable d'aborder avec moins d'exigences, avec moins de demandes par rapport à l'autre? Est-ce que la commande pourrait être moins lourde pour la permettre, justement? J'ai l'impression que nos amours étouffent souvent sous le poids de ce qu'on attend, de ce que l'autre devrait faire, devrait être comme ci, comme ça, devrait faire l'amour comme ci, comme ça.
Donc on a trop une liste d'épicerie, finalement.
On a une grosse liste d'épicerie, disons, parce que la vie est devenue insécurisante aussi, à beaucoup de niveaux, et on cherche dans ce couple-là une sécurité. Et ce qui est possible, au fond, mais qui va demander vraiment une culture, hein, comme on cultive un jardin, un apprentissage, apprendre à communiquer, apprendre à se dire à l'autre, apprendre à faire des demandes réalistes. Il y a un paquet de choses. Apprendre à rêver ensemble aussi, c'était ça, c'était beau dans la chanson de la vie. C'est ça que j'aime, c'est qu'on va s'aimer encore au-delà de tout ça. Et aussi dans la chanson de Séguin, c'était très beau. S'aimer toujours aussi. Mais je pense que c'est ça, c'est cette quête des êtres humains à redevenir un. Mais tu peux redevenir un avec un enfant, redevenir un avec une partenaire, un compagnon, une compagne. Tu peux redevenir un avec un arbre, avec la vie profonde, avec soi-même surtout, se réunir avec soi à nouveau.
Mais une fois que la parole de l'homme, puis vous avez contribué largement à ça, elle est plus libre maintenant. L'homme parle plus de ses émotions. La femme a toujours parlé de ses émotions, mais l'homme commence plus à le dire, à dire ce qu'il ressent. Est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce que ça a amélioré l'amour, le fait que l'homme s'exprime plus librement?
Bien, comme disait Ariane Aymon, la journaliste, elle disait, mais on parle d'une crise entre les hommes et les femmes, mais en réalité, les hommes et les femmes ne sont jamais autant parlés en dehors des stéréotypes. Au fond, ça ne veut pas dire que ça va mieux, mais je pense qu'on est dans une grande épreuve initiatique par rapport à ça. Et bien sûr qu'elle connaît ses écueils, mais est-ce qu'un couple peut reposer sur autre chose qu'une amitié profonde et une compréhension profonde? C'est sûr que cette compréhension-là, elle est plus exigeante maintenant que nos parents qui s'installaient peut-être dans des stéréotypes ou dans des façons de se comprendre ou de ne pas se comprendre, d'ailleurs, pendant des années. Et pour nous, c'est devenu intolérable. Pour nos compagnes, en particulier, c'est devenu intolérable qu'on puisse pas parler, qu'on puisse pas s'exprimer. Et moi, c'est ça, je disais souvent ça aux hommes. Écoutez, ils apprenaient pas à parler, puis à vous communiquer un peu, vous te laisser derrière, là, dans cette histoire-là. On est en train de changer de paradigme, on est en train de changer de siècle, on est en train de changer de monde, là. Mais j'ai créé aussi le réseau Femmes Québec et je voyais que les femmes, à leur tour, rencontraient d'autres types de difficultés, bien sûr, parce que dès qu'un sexe se met en mouvement, et les femmes l'avaient été largement à travers le féminisme, mais là, quand les hommes se mettaient à bouger, les femmes aussi sont questionnées par rapport à leurs stéréotypes.
Ça les déstabilisait, le fait qu'il y ait l'homme qui prenne plus sa place au niveau de la parole,
tout à coup, commence à parler, ou par exemple, tout à coup, tu te retrouves d'un homme qui pleure, tu sais. Et c'est pas supposé qu'un homme pleure en exprimant ses sentiments. J'avais une amie qui m'avait dit, « J'ai toujours voulu un homme sensible, mais là, il pleure, puis je sais pas quoi faire avec ça. » Et moi, j'avais trouvé ça tellement drôle. Mais j'avais dit, « il veut juste s'exprimer, il s'est entendu, et voilà. »
Justement, en parlant de pleurs, vous en avez fait pleurer pas mal quand on a su que vous aviez un cancer, un lymphome, en 2007.
Oui.
Racontez-moi un peu comment vous avez vécu ça. D'abord, vous étiez complètement dans un tourbillon de la vie, des conférences en Europe, partout. Là, évidemment, le corps fait en sorte que...
Oui, là, je brûlais la chandelle par les deux bouts. Et mon corps me l'a fait savoir parce que je n'avais pas pu l'écouter autrement. Et je suis le genre de personne qui souvent entend seulement rendre l'épuisement. Mais là, c'était plus grave que ça. Et donc, oui, c'est ça. Ça vient dans une période de succès énorme où il y a une... Il y a l'émission de télévision qui est en toute confidence, qui dure depuis 4 ans. Il y a mes tournées de conférences qui continuent. Je suis en train d'écrire un livre qui va devenir Le meilleur de soi, qui était publié juste avant le diagnostic de cancer. Et donc, c'est difficile, les vies de succès, de les découper, de commencer à dire non, de pas pouvoir flotter sur cette vague-là. Mais c'est des vies exigeantes aussi. Quand il y a beaucoup de succès, il y a beaucoup d'exigences. Et donc, j'avais mal mesuré les choses et... Le cancer est venu sérieusement me rappeler à l'ordre. C'était un rappel à l'ordre très sévère, en fait.
C'est comme ça que vous l'avez vu, un rappel à l'ordre?
Oui, un rappel à l'ordre. Puis je me suis dit, mon Dieu, comment j'ai invité une expérience comme ça dans ma vie, puis comment je vais pouvoir la transformer en quelque chose qui a du sens pour moi aussi. C'est ça qui est en jeu là-dedans. Hein, tu peux te dire c'est absurde, je suis une victime.
Alors, c'est un lymphome assez important.
Oui, c'était un grade 4, donc
potentiellement
terminal. Oui, c'est oui. Ça, c'est le stade le plus.
Et vous avez grave. Pris tous les remèdes, mais vous aviez aussi une double médecine, si on peut, la traditionnelle et aussi avec.
Oui, parce que j'étais souvent malade dans ma vie, donc c'est sûr que pour moi. Les médecines doivent s'additionner, non pas s'opposer. C'est pas pour moi, c'est pas l'une ou l'autre médecine. Par exemple, c'est pas la médecine de l'hôpital ou les médecines douces ou les médecines de terrain. Pour moi, c'est la médecine de l'hôpital et la médecine douce et encore même méditation, visualisation des médecines énergétiques et l'alimentation et la psychothérapie. Pour moi, quand on est malade, c'est pas vrai que c'est juste le corps qui est malade, c'est tout notre être qui est malade. Le corps nous parle d'une dysfonction qui se passe à tous les niveaux, au niveau émotif, affectif, qui se passe au niveau mental, de nos croyances. Il nous parle d'une vie qui ne va plus, qui n'est plus sur ses rails. C'est mon avis à moi.
Qui n'est plus sur ses rails, mais est-ce que Guy Corneau a eu peur de mourir?
Ah, bien sûr, c'est la première chose. Hein, mon oncologue m'a dit, écoutez, on va faire de notre mieux. Tu me dis, oups. C'est pas une grosse sécurité, on va faire de notre mieux.
Le mieux était trop, là.
Oui. Non, mais quand même, était optimiste. Mais quand même, c'était très grave. Et, bien sûr, on a peur de mourir. On a l'impression que le tapis nous est enlevé de sous les pieds, puis on tombe dans le précipice, au fond. Et c'est pour ça que j'ai écrit Revivre, et c'est pour ça que j'ai mis en ligne aussi un truc qui s'appelle Dialogue avec les cellules, qui est gratuit, qu'on peut écouter sur guycorneau.com. Et parce que pour moi, à partir de ce moment-là, j'ai dû vraiment trouver des outils qui me permettaient de combattre l'angoisse et donc de créer une réalité imaginaire qui était plus douce, qui était plus agréable, de dialoguer avec les parties de moi qui étaient en difficulté. Beaucoup d'écoute d'abord dans un premier temps et ensuite beaucoup de suggestions à ce corps-là d'avoir le rassuré que j'étais vraiment à l'écoute, que j'entendais ce qui était dit des profondeurs, comment j'avais pu négliger de me ressourcer ou comment j'avais négligé certains aspects de ma vie ou de moi-même. Et ensuite, de l'inviter à un changement, à créer des nouvelles cellules et tout ça. Donc, non, c'était un moment d'un travail nourri, assidu, mais aussi, bien sûr, comme toutes ces grandes épreuves-là, le moment de trouver une grande joie, le moment de trouver une grande...
De vous retrouver aussi, parce que vous étiez perdu.
Absolument, de se recentrer, de réduire ses besoins, de retrouver la simplicité de la vie... Le soleil qui brille, les amis qui vous invitent à manger, qui vous amènent au parc pour méditer. Je ne sais pas, j'ai été tellement bien accompagné par mes amis.
Donc finalement, ça c'est bien, vous avez bien traversé la maladie.
J'ai bien traversé la maladie, j'étais bien accompagné par mes médecins aussi. Oui, c'était une grâce pour moi, ça s'est transformé dans une grâce très importante, qui transforme réellement la vie.
Alors, un autre beau cadeau que vous nous emmenez, Paul Pichet, avec l'amour. Pour vous.
Avec l'amour qui est jamais facile, avec le temps qui arrange rien, quand c'est la vie qui a l'air inutile, on dit que pleurer ça fait du bien. Je voudrais pleurer toute ma misère. Je voudrais lâcher un gros morceau. Je voudrais pleurer toute une rivière. Je voudrais pleurer, mais j'ai peur de l'eau. Puis c'est toujours ceux qu'on aime qui sont pris pour endurer. Et les malheurs qu'on enferme, les défauts qu'on peut plus cacher. Il y a trop d'enfants malheureuses, puis toutes les femmes sont trop battues. Tant qu'aux garçons remplis de même, on perd l'amour, on gagne le cul. Je voudrais chanter pour casser la guerre, ouvrir les
chemins pour du nouveau. J'ouvre un vagin, j'échappe la rivière. On fait l'amour, mais faut pas se mettre à vous. Et puis ça sent les promesses. Et ça sent aussi la fumée. Elle veut me dire qu'est-ce qu'on cherche ou qu'est-ce qu'on veut pas trouver. Un sourire, une caresse, ça c'est ce qu'on cherche, ce qui nous ferait pleurer. Pour les mirages, sans avoir peur de me retrouver, sans arracher les cils du visage, sans avoir l'air de m'excuser, je voudrais pleurer toute ma misère, je voudrais lâcher un gros morceau. Toute une rivière, je voudrais pleurer, pleurer comme il faut.
Alors, une chanson de circonstances, parce que c'est vrai.
Mais
que...
Oui.
Est-ce qu'il y a eu beaucoup de pleurs avec ce cancer-là ? Est-ce que c'était des larmes retenues, assumées ?
Les deux, mais il y a aussi, je pense que les pleurs les plus profondes, c'est de constater quand t'entends survivre, quand t'entends mener sa vie, on se fait du mal aussi. C'est comme, je me rappelle avoir parlé à mon corps en disant « je m'excuse ». J'ignorais juste tout ça. J'essayais de vivre honorablement, mais manifestement, j'ai pas suivi un chemin qui était assez respectueux de la vie.
Et qu'est-ce que ça change aujourd'hui? En 2013, est-ce que Guy Corneau fait les choses différemment? Est-ce qu'il y a plus de non que de oui dans votre vie?
Il ralentit un petit peu le conférencier, les ardeurs du conférencier. Là, il revitalise une pièce que j'avais écrite avec Daniel Proulx qui s'appelle « Céline et André, une histoire d'amour à éclairer » qu'on va jouer la semaine prochaine. La première, c'est à Québec, le 26 janvier. C'est ça. Et puis, on va jouer à Montréal les 13-14 février, puis ça poursuit.
Donc, les choses reprennent, mais plus doucement, si je comprends bien.
Plus doucement ou dans une autre sorte d'intensité. Et c'est sûr que l'artiste qui avait été un peu négligé à travers toutes ces années de psychanalyste a voix au chapitre maintenant. Alors, ça, c'est agréable de retrouver cette sorte de vibration-là.
Est-ce qu'il y a des choses que vous dites, ça, je ne referai plus? Parce qu'il y a quand même un Guy Corneau avant le cancer et un Guy Corneau après le cancer. Est-ce qu'il y a des choses que vous dites, ça, c'est terminé pour moi?
J'essaie de ne pas trop faire de choses en même temps. Ils sont difficiles. Il y a toujours quelqu'un qui a eu tendance à avoir deux, trois vies en même temps, une émission de télévision, des tournées, puis une écriture. Et là, j'essaie de ne pas faire ça. Parfois, c'est difficile, je trouve. Mais quand même, j'essaie d'être plus respectueux de plages de ressourcement. Je me rends compte que même si c'est agréable de performer, puis faire des projets créatifs et tout, la vie, c'est vraiment un moteur à deux temps. Il y a un temps pour s'exprimer, puis il y a un temps pour se ressourcer.
Et là, vous êtes en rémission, officiellement.
Oui, tout à fait, depuis 5 ans déjà, oui.
Et donc,
oui.
Ça se passe bien, la santé, les résultats
bien.
Sont bons.
Ma santé est bonne, mais c'est sûr que c'est des étapes. C'est la deuxième fois que je passais près de mourir à cause de la maladie. Et c'est sûr que tu te dis, il n'y aura pas de troisième, la prochaine fois, on va y passer. Donc, je suis plus attentif qu'avant. Oui.
Alors, comme c'est notre première émission, on explique un petit peu les règles du jeu aux auditeurs, auditrices. À la fin de l'émission de Cœur à Cœur, on donne un coup de chapeau. Un coup de chapeau, c'est, ça le dit. Quelqu'un que vous admirez, c'est l'invité qu'il choisit, bien évidemment. Et Guy Corneau, vous avez décidé de choisir Marie Toupin, directrice de la Fondation québécoise du cancer en Estrie. Oui. Pourquoi?
Parce que, d'abord, la Fondation québécoise du cancer m'a interpellé très, très, très tôt après que je sois sorti de mon processus de maladie ici à Montréal, parce qu'ils ont une maison d'hébergement pour les gens qui viennent suivre des chimios à Montréal, qui demeurent à l'extérieur. Ils ont aussi un atelier de création. Ils ont aussi des groupes de parole. Alors, j'ai été invité très, très tôt à parler à ces gens-là. Et c'est à travers tout ça, à travers des activités pour la Fondation, des conférences que j'ai données pour des soupers bénéfices, des choses comme ça, que j'ai connu Marie Toupin et qui est venue donc à plusieurs de mes conférences, plusieurs de mes ateliers et tout ça.
Alors, elle est là, elle est en ligne avec nous. Marie Toupin, bonjour.
Bonjour. Bonjour, M. Corneau.
Bonjour, bonjour. Vous allez bien?
Oui, je vais bien.
Alors, dites-moi, Madame Toupin, parlez-nous de votre organisme. Justement, M. Corneau parlait de ce côté créatif. Dites-nous, qu'est-ce que vous faites? Depuis combien de temps vous existez?
Bien, la Fondation québécoise du cancer existe depuis plus de 30 ans. Elle a été mise en place par des radio-oncologues qui, à l'époque, voulaient faciliter la vie des patients. Souvent, les traitements étaient menacés parce que les gens arrivaient de trop loin, n'avaient pas les moyens d'être hébergés pour vivre les traitements cancer au quotidien. Donc, ils ont mis en place là, les premières hôtelleries Montréal, puis après ça, ici, en Estrie. Et ont ajouté à ça, au fil du temps, des services, là, des thérapies complémentaires, comme on appelle. Mais comme ils sont des médecins, ils ont toujours tenté d'avoir une approche là, scientifique ou en tout cas des thérapies complémentaires pour eux s'appuyaient sur des critères de choix. Là. Donc, on a mis la massothérapie en place, l'art-thérapie et la kinésiologie. Activité physique pendant les traitements.
Alors, vous vous êtes rencontrés comment avec M. Corneau? Il est là, c'est un peu gênant, là, vous pouvez nous le dire, là.
Bien, moi, je l'ai tous les jours à peu près sous les yeux parce que on a un mini-centre de documentation dans toutes nos hôtelleries. Et puis, le livre de M. Corneau est très, très choisi par les personnes en traitement cancer. Le livre, là, « Revivre ». Mm-hmm. Alors, parce que c'est son visage qui apparaît déjà sur le dessus du livre.
Alors, il est avec vous tous les jours, c'est
ça? Oui, c'est ça. Puis souvent, les gens sont je trouve que c'est une inspiration, puis c'est ça qu'ils nous disent. Mm-hmm. Déjà, le regard qu'il a, je trouve que c'est très humain. Et puis après ça, c'est revivre. Alors, ça interpelle beaucoup les gens, parce que quand ils sont chez nous, les personnes sont vraiment dans un moment... Ils dédient ça vraiment à la guérison, au traitement. Donc, ils sont comme plus ouverts à toutes ces thérapies complémentaires ou à la qualité de vie. Mm-hmm. Et M. Corneau, je pense, en fait partie, en tout cas, interpelle les personnes atteintes qui veulent modifier. Je l'entendais dire, j'essaie de faire des choix. Mm-hmm. Et c'est ce que les gens font, hein. Ils sont obligés de le faire, là.
Alors, le livre est là tous les jours, le livre revit, fait des petits, comme on dit, vous êtes au quotidien, comment vous côtoyez les gens avec la maladie, dans quel sens Guy Corneau a apporté, vous sentez un changement quand les gens ont lu le livre?
Bien, je dirais que... En fait, c'est une inspiration. Guy Corneau est là, il a survécu, il a bien survécu. Je pense que c'est ça que les gens ont besoin d'entendre. Puis là, il a fait des choix. Et il nous dit aussi comment, par quoi il est passé. Je sais que les gens font pas tous les mêmes choix, mais c'est inspirant dans le sens que... Justement, il partage son expérience. Ici, d'ailleurs, les gens qui hébergent ont ce temps-là, le temps de partager avec les autres personnes atteintes. Mm-hmm. Et ils apprécient beaucoup pouvoir partager leur histoire, partager leur vision de l'avenir, qu'est-ce que la maladie change pour eux. Et souvent, ça va se faire, mais l'autre soir, il y avait avec notre art-thérapeute, il y avait une rencontre avec des personnes atteintes de tumeurs cérébrales. Alors, ces personnes-là, quand ils sont sortis de l'atelier, disaient, en fait, les images qu'ils ont produites disaient, là, la maladie a modifié mes valeurs, a simplifié mes besoins, puis c'est, les images illustraient cette nouvelle réalité-là. Là. Ces personnes sont à l'aise de partager avec des gens qui vivent la même chose et qui les comprennent. Je pense qu'il y a ça aussi, ils se sentent compris par Guy Corneau, qui porte quand même le chapeau, il est psychanalyste et tout, mais ils se sentent compris par quelqu'un qui l'a vécu.
C'est
pas
ça,
seulement
c'est ça.
Un conférencier. Ben moi, j'ai assisté à plusieurs reprises à ces conférences et à chaque fois, j'en tire... quelque chose, mais c'est ça.
Alors, en terminant, Madame Toupin, oui. Puisqu'il lui a fait son coup de chapeau, il est en studio, je vais lui demander de ne pas parler, mais qu'est-ce que vous... Guy Corneau, pour vous, c'est qui?
Guy Corneau, c'est vraiment quelqu'un qui est habilité à soutenir la vérité chez l'autre. C'est quelqu'un qui nous appelle à être nous-mêmes et à être positif, je pense.
Merci beaucoup, Madame Toupin.
Ben, ça m'a fait plaisir.
Au revoir.
Merci.
Alors, Guy Corneau, on vous voit sur les planches et les
on voit sur les planches
semaines.
Tout bientôt à Québec, à Montréal. On voit tout ça sur guycorneau.com.
D'accord.
Il y a tous les programmes et tout. Et oui, c'est, autrement, il y a encore un peu de conférences, il y a des choses comme ça.
Un peu de conférences, est-ce qu'il y a de l'écriture aussi?
Il y a de l'écriture, mais ça ne sera pas tout de suite. Ça va être à l'automne, j'espère qu'il y aura un livre en 2014. Je fais aussi des ateliers santé, hein, un atelier qui s'appelle « Vivre en santé ». Qui est un atelier d'un jour qui déploie c'est un atelier où on apprend à utiliser certaines choses énergétiques. Comment changer ses états intérieurs, par exemple, quand on est atteint ou même quand on est en santé. Comment dialoguer avec les parties de soi qui sont en difficulté. Une approche de la méditation, de la contemplation.
Alors, donc, on peut aller voir toujours sur
le site guycorneau.com. Ça s'appelle Vivre en santé. On fait aussi des séjours santé.
Merci beaucoup, Guy Corneau, et pour une première de cœur à cœur. Et au plaisir de vous voir sur les planches et de vous lire.
Merci, Sophie. Merci. Bonne continuation.
Merci.